Et si vous vous êtes toujours demandé ce que pouvait donner le médecin malgré lui de Molière en opéra, comique évidemment, nous vous laissons avec la rencontre entre Romain et Sganarelle en personne.
Nous sommes aujourd'hui avec Marc Scofoni, Sganarelle, pour ceux qui auront la chance de voir cet opéra qui se prépare pour novembre. La Générale est lundi prochain, donc dans une semaine tout rond quand nous nous rencontrons. Ce médecin, malgré lui, où vous jouez un très beau rôle. Donc le premier rôle de Marc Scofoni, ça fait 10 ans, vous l'avez fêté en tout cas, 10 ans sur scène à l'opéra, en chant lyrique. On va revenir sur tout ça, les nombreux rôles que vous avez pu jouer et votre parcours bien entendu. Mais avant tout, comment est-ce que le jeune que vous étiez s'est passionné pour le chant lyrique et a eu envie d'en faire carrière, d'en faire véritablement son activité principale, son métier?
Bonjour. Alors avant tout, il faut s'ôter une idée de la tête comme quoi un chanteur d'opéra a forcément une grosse barbe et un surpoids démesuré. J'invite tout le monde à venir à l'opéra pour voir que la moyenne d'âge environ sur un plateau est de 35 ans. Donc dans tous les conservatoires, vous avez de nombreux jeunes qui se forment chaque année. Et puis je faisais partie de même il y a 10 ans. Et c'est ce qui m'a conduit à entreprendre une carrière.
Est-ce qu'il y a eu un déclic, une œuvre particulière qui vous a vraiment mis le frisson, une rencontre peut-être, un spectacle particulier qui a assis cette envie-là, qui l'a forgée?
Alors je dirais que chaque rencontre, chaque spectacle, on fait en sorte que ce soit le spectacle le plus intéressant pour nous et le plus passionnant. C'est un ensemble de rencontres, d'événements qui se passent au cours de notre éducation musicale qui font qu'on choisit ce métier-là. Et que ce métier-là nous choisit également, parce que c'est une chance de pouvoir effectuer une carrière comme la mienne et puis comme celle de mes collègues, et ce n'est pas donné à tout le monde, et je prends conscience de la chance que j'ai.
Depuis Yamadori en 2007 dans Butterfly, justement, maintenant ici à Rennes, on vous a déjà vu à plusieurs occasions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu aussi vite, je dirais, même si on reviendra plutôt après sur le travail artisanal que ça peut représenter, sur ce chemin parcouru, quelles ont été les grandes étapes?
Alors c'est vrai qu'il y a Yamadori à l'Opéra de Marseille, c'était mon tout premier rôle qui m'était offert par une grande maison. Et bien sûr, c'est Madame René Auffant, qui était la directrice à l'époque, qui m'avait donné ma chance, et ça a influé sur la suite des événements. Par la force des choses, après bien entendu Alain Surance, 2 ans après, m'a fait confiance et il a été fidèle jusqu'à présent. Donc cette année, c'est la 8e saison que je viens à l'opéra. J'avais commencé avec un rôle dans Rita de Donizetti, qui était un opéra comique français. Et là, on revient également dans un opéra comique français 8 ans plus tard, mais avec le rôle principal. Donc je trouve que c'est une belle évolution au niveau des emplois.
Pour votre part, vous êtes d'origine corse, vous avez étudié l'anglais à la fac et vous êtes maintenant, ici, la Corse est tout de même en France, donc France-Italie, un certain lien, notamment dans cette pièce où il y a beaucoup d'inspiration de la comédie italienne, mais aussi une grosse culture de la comédie française de Molière à ce moment-là. Ce spectacle, il semble à peu près parfait pour quelqu'un comme vous.
C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est un bon mélange de comédia dell'arte et de comédie française. C'est un rôle qui avait été écrit par Molière et pour lui-même. Donc c'est dire l'exigence qu'il faut avoir quand on travaille ce genre de répertoire. J'apprécie tout particulièrement aussi le travail avec Vincent Tavernier, avec qui j'avais déjà fait ce Rita dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a plus de 8 ans, qui travaille beaucoup sur les personnages, mais également sur la caractérisation de chacun et qui se rapproche beaucoup de la comédia dell'arte. Donc finalement, les deux mondes s'entremêlent et c'est pour le mieux.
On parlait de l'exigence réclamée à un chanteur lyrique. Cette année, vous allez jouer à Rennes, mais pas seulement. Vous jouerez aussi pour l'Odéon, vous jouerez à Tours, vous jouerez à Bremen, à Saint-Étienne, à Avignon. Énormément de rôles différents. C'est plus de 50 rôles que vous avez déjà joués durant ces 10 années-là. L'hygiène de vie, je dirais, l'hygiène, la discipline de vie d'un chanteur lyrique, ça se déroule comment?
Alors, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais... Bon, cette année en particulier, on a de beaux rôles qui approchent avec beaucoup de travail. Et au plus les années passent, au plus les rôles sont exigeants et il faut chaque fois faire ses preuves, même si on commence un petit peu à être connu et reconnu. Mais c'est des nouveaux défis qu'il faut savoir relever dans différentes langues, différents styles, différents répertoires. Quant à l'hygiène de vie, c'est, Je dirais qu'il faut vivre normalement, parce qu'on ne va pas commencer à dire que c'est une vie d'ascète, ce qui n'est pas le cas, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on a à faire. On essaie de dormir le mieux possible, à défaut de dormir beaucoup. D'éviter, bien entendu, l'alcool, la cigarette, les sorties tardives, tout ça, qui pourraient simplement nous fatiguer et donc notre instrument serait moins en forme le lendemain. Mais sinon, après, on continue d'avoir une vie complètement normale. Si ce n'est qu'on passe beaucoup d'heures face à nos partitions et face à notre piano pour apprendre tous ces rôles-là.
Votre instrument, justement, c'est votre voix. On a dit d'elle qu'elle était toujours amplement projetée, corsée et pleine de matière. On reviendra un peu sur ces différents termes. Mais alors justement, prendre soin d'un organe pareil qui est votre outil de travail, également, ça consiste en quoi? Ça peut marcher pour tous les chanteurs aussi, j'imagine. Et quelques conseils, quelques tips?
Oh, les tips que j'aurais à donner, c'est l'hygiène de vie dont on a parlé précédemment, mais surtout travailler régulièrement sa voix. Tout comme un sportif qui s'entraîne régulièrement, le fait de travailler de manière posée et de manière quotidienne fait en sorte qu'on apprivoise son instrument de jour en jour et on apprend à le connaître. Sans faire de la psychologie de bas étage, nous sommes notre propre instrument. Donc lorsqu'on est bien dans sa tête, forcément ça se ressent sur la voix. Et donc je crois que c'est important d'être bien dans son esprit pour être bien dans son corps.
Les critiques savent être lyriques, eux aussi. Je citais tout à l'heure « amplement projeté, corset plein de matière ». On peut dire « la profondeur et le velouté de timbre sont un régal ». On parle à nouveau de vous. Encore « Marscophonie » affiche une santé vocale et une fantaisie scénique qui emporte l'adhésion. Il y a vraiment tout un vocabulaire, presque un langage vernaculaire autour de l'opéra aussi. Est-ce qu'il y a quelques mots-clés qu'il faut comprendre quand on n'y connaît pas encore beaucoup?
Alors, je pense que lorsqu'on ne s'y connaît pas beaucoup, la meilleure des choses à faire, c'est venir à l'opéra. Et pas forcément lire les critiques, même si elles sont très élogieuses, comme vous venez d'en parler. Mais c'est toujours le regard subjectif d'une seule personne, souvent quelqu'un d'éclairé, sur un spectacle. Et je pense que finalement, la plus belle des critiques serait celle du grand public. Parce que lorsque une personne va écrire un papier sur un spectacle, on a quand même ici à l'Opéra de Rennes plus de 700 personnes qui ont assisté à un spectacle et qui ont passé un bon moment ou pas. Donc je crois qu'il faut prêter autant d'attention au retour du public, même plus, me semble-t-il. Mais je dirais que la meilleure des choses pour comprendre l'opéra, c'est d'y venir tout simplement. Ici, on a la chance d'avoir un opéra qui est ouvert au grand public, qui est tourné vers la ville, tourné vers la jeunesse. On a des tarifs très avantageux pour les moins de 25 ans. Et puis, nous sommes au plein centre de la ville. Personne n'ignore ce qu'est l'opéra à Rennes. Et puis, je crois qu'il n'y a pas de langage particulier à apprendre ou à apprivoiser. L'opéra demeure quand même l'un des arts les plus populaires qui n'ait jamais existé, qui traverse les générations. Donc je pense que c'est ouvert à tout le monde. Je ne pense pas, j'en suis sûr.
L'ouverture vers le public de l'opéra, c'est une problématique, en tout cas une question qu'on aborde souvent ici. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour le monde lyrique à l'heure actuelle que vous pourriez identifier ?
Donc, comme vous disiez, en effet, la démocratisation est très importante sans oublier l'exigence artistique, ce qui est le cas ici. Tous les deux ans, vous avez une retransmission sur la place de la mairie qui rassemble plus de 10 000 personnes. Donc, je crois que c'est un beau phénomène de démocratisation. Les enjeux que nous ayons, je pense qu'à nous, chanteurs français, je parle, hein, parce que je suis proche de ceci forcément, c'est de trouver notre particularité, de défendre notre patrimoine français, qui est la langue, mais également le répertoire français, de le défendre au mieux, parce que maintenant nous sommes confrontés, c'est tout à fait normal, aux voies européennes, aux voies mondiales, les gens se déplacent de plus en plus, donc nous sommes beaucoup plus nombreux sur le marché. Donc c'est à nous de montrer que nous avons un sérieux dans notre travail et une connaissance du répertoire qui n'est pas égalé ailleurs, du moins de notre répertoire. J'ai souvent entendu qu'il n'y avait plus de voix en France, mais lorsque je vois les jeunes qui arrivent et les stars de demain, je peux vous dire que l'art lyrique français se porte très bien.
L'opéra, un art populaire s'il en est, vous avez pu le dire, quand on s'intéresse au médecin malgré lui de Molière, bien sûr ça date de plusieurs siècles, mais il y a quand même des questions qu'on y retrouve dans notre société actuelle, notamment là éventuellement dans le médecin malgré lui on joue un peu avec notre crédulité et tout ce qui va avec, il y a aussi peut-être on peut y voir une critique de la religion. Est-ce que quand vous abordez un rôle, vous essayez d'aller trouver dans l'actualité, dans nos sociétés modernes, ces traits-là, ces traits que vous allez devoir figurer sur scène?
Alors la première des choses que l'on fait lorsqu'on je me penche sur un rôle, c'est d'étudier l'œuvre dans son intégralité et surtout d'aller essayer de comprendre le contexte dans lequel le compositeur ou le librettiste a écrit cette œuvre. Le travail de transposition, on peut le faire de manière personnelle, mais après, c'est le metteur en scène qui nous impose sa vision, ou du moins qui nous propose sa vision. On a plutôt intérêt d'y adhérer, mais si on veut que tout se passe bien. Mais par contre, il est vrai que tout thème peut résonner. On peut trouver une résonance dans tous les thèmes d'opéra avec notre actualité. Et donc, en effet, le médecin malgré lui, même si je trouve que le thème récurrent, c'est la médecine qui est... Bon, ce serait difficile de nos jours de voir la médecine d'un tel œil, mais c'est vrai que Molière était très critique envers les médecins, et s'en moquait beaucoup dans plusieurs de ses œuvres, d'ailleurs, et dans celle-ci tout particulièrement.
Comment, selon vous, parce qu'il y a mille interprétations de ça, comment, selon vous, Molière peut être encore aujourd'hui aussi joué, aussi apprécié? Pourquoi est-ce qu'il avait un regard aussi important qu'on utilise encore?
Une chose est certaine, c'est que les chefs-d'œuvre traversent les âges, et lorsqu'on voit que Mozart, qui a composé ses œuvres il y a plus de 300 ans, est toujours d'actualité, il en est de même pour Verdi, Puccini et Gounod actuellement. Là où c'est frappant dans cette œuvre, c'est que c'est le 19e siècle qui rencontre le 17e, donc il y a quand même deux siècles qui les séparent, et ils arrivent Gounod a réussi à allier sa musique à cette pièce de Molière, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de rupture entre les siècles lorsque l'art entre en jeu.
Quand on joue Aîné et Didon, parce qu'il me semble que c'était vraiment la toute première, ce rôle d'aîné, quand on joue ici Sganarelle, c'est, j'imagine, des préparations très différentes, mais est-ce que vous avez des préférences pour certaines époques, des préférences pour certains rôles?
Une chose est sûre, c'est que quel que soit le rôle que je travaille, j'y mets le même entrain. J'ai des répertoires, bien entendu, qui me touchent plus, comme le romantisme, qu'il soit français ou italien, mais la joie que j'ai et le plaisir que j'ai, c'est de chanter à la base. Donc, quel que soit l'enchaînement des notes, quel que soit le style, quelle que soit la version, mon plaisir est d'être sur scène, bien entendu, mais de chanter et de faire au mieux, de défendre au mieux l'œuvre d'un compositeur, parce que c'est quand même une lourde tâche que d'interpréter un rôle qui a été composé des siècles auparavant. Il faut être à la hauteur de son compositeur, de ses illustres interprètes. Donc me concernant, je n'ai pas de préférence particulière, et prenons l'exemple des dernières années, j'ai touché un peu à tous les siècles, à tous les styles, à toutes les époques, donc c'est pour dire que j'y mets juste la même passion et le même travail pour chaque partition.
Marc Sophonie, on vous laisse partir en répète dans quelques instants, mais voilà, on a parlé beaucoup de chant. Néanmoins, l'opéra, ce n'est pas que du chant, c'est aussi de l'interprétation. Et on a noté beaucoup votre fantaisie scénique, elle est souvent mise en avant. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous, après que les critiques aient dit ça, en tout cas? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous identifiez, vous?
Ce que je dis souvent lorsque j'écoute de jeunes chanteurs, non pas que je sois un vieux chanteur, mais c'est que j'ai envie de voir le plaisir qu'ils ont à être sur scène. Et lorsque vous prenez vous-même du plaisir, ce qui est mon cas, je crois que le public le ressent tout naturellement. Donc, fantaisie scénique, oui. Bon, il s'avère que là, Sganarelle court beaucoup dans tous les sens, mais on a pu le voir dans la Cenerentola il y a 2 ans, le rôle de Dandini également. Mais j'essaie de retransmettre, ou du moins de transmettre tout simplement le plaisir sincère que j'ai à être sur scène. Et lorsqu'on voit quelqu'un de souriant et plein d'entrain, on a envie de participer au spectacle. Et bien sûr, quel que soit, ce n'est pas toujours le cas en fonction du répertoire qu'on a à défendre, mais je crois que c'est simplement une question de plaisir et de montrer qu'on est là pour les gens, qu'on est là pour servir la musique, et tout se fait naturellement.
Merci, Marc.
Merci à vous.
Non, 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 non Nous espérons que vous irez voir avec plaisir cette adaptation version opéra de la célèbre pièce de Molière, Le médecin malgré lui. Si vous voulez assister à l'une des représentations sur Rennes, rendez-vous à l'Opéra de Rennes les 21, 22, 24, 25 et 26 novembre.